This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 29e épisode, je reçois Elodie et Julie, qui sont toutes les deux infirmières puéricultrices, formatrice pour les auxiliaires de puériculture et les créatrices de My Jolie Family, où elle propose du soutien à la parentalité. Comme Morgane de l'épisode 28 sur le parcours des bébés prématurés, elles font également partie du collectif Je suis infirmière puéricultrice qui se bat pour faire reconnaître une prise en charge pour les soins de l'enfant, de sa famille et le soutien dans la parentalité. Dans cet épisode, on parle de la communication bienveillante, des principes et valeurs qui la composent et de pourquoi on peut avoir besoin de méthodes pour avoir une communication bienveillante. Elodie et Julie nous donnent des clés pour savoir par où commencer et comment la mettre en pratique au quotidien. Elles expliquent les difficultés qu'il est normal de rencontrer, pourquoi c'est même sain de ne pas toujours y arriver et comment trouver des ressources pour aller plus loin. Elle détaille pourquoi les pleurs des bébés ou des enfants peuvent être si difficiles à accueillir, mais surtout pourquoi accueillir des pleurs ne veut pas forcément dire les faire cesser. Enfin, Elodie et Julie nous expliquent comment nous comporter quand nous n'avons pas réussi à garder notre calme, ce qui arrive à tous les parents. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie, bonjour Julie.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de faire ce podcast. Avec vous, on va parler de la communication bienveillante. On va voir un petit peu ce que c'est, comment on l'applique au quotidien, parce que la théorie, c'est bien joli, mais après, il faut qu'on arrive à en faire quelque chose à la maison. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle, s'il vous plaît, et expliquer pourquoi vous êtes là toutes les deux et qu'est-ce qui vous relie ensemble ?
Donc, bonjour Charline, et merci à toi de nous donner cette opportunité de parler de la communication bienveillante. Donc, moi, je suis Elodie Emo, je suis infirmière puéricultrice de formation. J'ai exercé en PMI, en maternité, néonatologie, et puis aujourd'hui, je suis formatrice pour les auxiliaires de puériculture. Et en parallèle de ça, on a monté avec Julie My Jolie Family, donc pour proposer des consultations de soutien à la parentalité à domicile et par visioconférence. Et on a aussi une partie coaching de vie assurée par une collègue spécialisée dans les thérapies cognitivo-comportementales. Et moi, j'ai deux diplômes universitaires, donc un en psychopathologie du bébé et un autre en psychisme et périnatalité. Donc Julie et moi, on est ensemble formatrices pour les auxiliaires de puériculture aussi.
Et toi, Julie ?
Ben bonjour déjà Charline, et je rejoins Elodie, hein, je te remercie de nous avoir proposé ce podcast sur la communication bienveillante. Donc moi je suis infirmière puéricultrice, j'ai exercé en réanimation néonatale, en maternité et depuis quelques années, je suis formatrice auprès des futurs professionnels de la petite enfance, les auxiliaires de puériculture, avec Élodie. Et je suis formée à la communication bienveillante selon la méthode Faber et Maslisch et selon la méthode Gordon. Et j'ai animé certains ateliers auprès des professionnels que j'ai pu accompagner quand j'étais directrice de crèche et aussi auprès des parents.
Alors Julie, tu viens de parler de communication bienveillante selon la méthode Faber et Maslisch et selon la méthode Gordon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
En fait, depuis quelques années, on entend beaucoup parler de la communication bienveillante et surtout à destination en fait des parents et des enfants en fait pour améliorer la communication au sein de la famille. Et entre autres, il y a Faber et Maslisch qui sont deux Américaines qui ont été formées par le docteur M. Guinot qui se sont fait connaître en mettant en place des ateliers de formation pour les parents pour mieux communiquer. Et donc, j'ai pu bénéficier de cette communication et la communication selon la méthode Gordon reprend aussi un peu ces principes et c'est surtout une méthode qui permet en fait d'échanger au sein de la famille et surtout avec l'enfant de manière vraiment respectueuse, douce, responsable, j'ai envie de dire aussi, pour que l'enfant puisse évoluer dans un environnement serein, empreint d'empathie et pour qu'il puisse avoir confiance en lui et pouvoir s'exprimer librement dans son individualité.
La question qui me vient de suite, c'est on a tous envie de parler comme ça à nos enfants et à nos conjoints et à nos amis, concrètement. Mais pourquoi on a besoin d'une méthode en particulier qui nous permette de faire ça ? Qu'est-ce qu'elle apporte, la méthode ?
Donc, en fait, ce qu'elle apporte, c'est vrai que, comme tu dis, Charline, on a rajouté bienveillante à la communication, mais toute communication devrait être respectueuse les uns avec les autres, enfants, adultes, collègues. On a rajouté bienveillante derrière communication parce que je pense que c'est une compétence qui est à travailler, qui n'est pas innée, même si on est des êtres au départ de communication. Communiquer, ce n'est pas forcément inné chez certains. Et donc, qu'est-ce qu'elle apporte, la communication bienveillante ? Elle apporte déjà le fait de se respecter. Et quand on se sent respecté, ben, on a envie de communiquer encore plus. Quand on se sent écouté, quand quelqu'un est empathique avec, nous-mêmes, ben, on a envie, nous aussi, de l'être, puisque c'est contagieux, j'ai envie de dire, l'empathie, c'est un cercle vertueux. Et ça permet vraiment d'apaiser les climats, que ça soit tant dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Et ça nous permet aussi d'être bien après au niveau de nos rapports sociaux, au niveau de nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, je pense que voilà, la communication bienveillante, elle a le mérite en fait, voilà, de pouvoir apaiser les tensions et de mieux communiquer entre nous.
Et est-ce que c'est la même chose que la communication non violente dont on entend parfois parler et qui a été mise au point par Marshall Rosenberg ?
Alors, la communication non-violente qui a été mise en place par Marshall Rosenberg, qui était lui-même un élève, un disciple de Carl Rogers, donc c'est des psychologues hein, d'une lignée un peu humaniste qui ont commencé à faire émerger ces choses-là. Donc il y a des formations hein, en lien avec la communication non-violente, c'est un vrai label. Dans plein d'endroits, on peut se faire former à la communication non-violente. Après, il y a des piliers fondamentaux qui corrèlent évidemment avec la communication bienveillante. L'empathie, la bienveillance, le respect mutuel donc de ses propres émotions et des émotions de la personne qu'on a en face de soi. Ça, c'est vraiment des piliers fondamentaux de la communication non violente. Faire preuve d'écoute active. Et il y a cette notion de girafe et de chacal dans la communication non violente qu'on aurait tous en nous. Donc, on a tous en nous une girafe. Donc, la girafe, c'est communiquer de manière non violente. Et le chacal, c'est tout ce qui fait qu'on peut parfois communiquer avec de la violence. Et donc, la communication non-violente, ça va être une formation pour essayer de comprendre ses émotions et de changer sa manière de communiquer, mais pas que. Ça va permettre de changer aussi sa manière de penser, sa manière de se comporter, puisqu'on sait que les comportements sont parfois de l'ordre de l'inconscient. Et donc, cette méthode-là, ça diffère. Je dirais que la communication non-violente est apparue avant, peut-être, qu'on parle de communication bienveillante. Puisque Carl Rogers, il en parlait dans les années, à peu près les années 70. Après, moi, ce que je rajouterais aussi par rapport à tout ce qui est communication non violente, et ce qui est important, c'est qu'on communique aussi chacun d'une manière différente en fonction de son origine sociale, en fonction de son origine ethnique, de sa culture, de ses propres filtres. Et la communication non violente, elle va aussi s'appuyer, elle va donner des outils. Et donc, elle va permettre à chaque individu d'adapter ça et de communiquer de manière le plus bienveillant qui soit.
Ok. Et quel lien entre tout ça et ce qu'on appelle l'éducation dite bienveillante ?
L'enfant, en fait, depuis des décennies, on va dire, il a pris un peu plus de place. C'est clair qu'il y a plus de 10 ans, on n'éduquait pas comme les parents éduquent. Aujourd'hui, les parents ont vraiment envie, hein, ils ont cette motivation de prendre en considération l'enfant tel qu'il est, hein, un être à part entière, plutôt qu'un petit adulte, en fait, parce qu'avant, c'est un peu ce qu'on disait, on disait que l'enfant, c'était un petit adulte en miniature, et alors que maintenant, non, ils ont bien pris conscience que l'enfant, il a sa place, que c'est un être à part entière, qu'il faut le respecter comme on peut respecter un adulte, et donc il y a vraiment une réelle réflexion autour de la parentalité sur comment parler avec l'enfant, comment communiquer avec l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse devenir l'individu qu'il a envie de devenir sans qu'on y mette, nous, nos propres filtres d'adultes et de parents sur lui, et comment arriver aussi à pouvoir inculquer des valeurs, celles qu'on a en tant que parent, pour que cet enfant puisse être bienveillant, empathique lui-même quand il sera adulte. Donc l'éducation bienveillante, elle part de la communication bienveillante, puisque éduquer, c'est pas dans le sens comme avant on le pensait, mais éduquer, c'est plutôt évoluer avec l'enfant, le faire grandir, le pousser vers le haut, ou en tout cas l'accompagner vers le haut, plutôt en utilisant un langage respectueux, un langage qui remplisse son estime de lui-même et qui lui donne envie à lui aussi de s'exprimer, d'avoir sa place dans ce réseau de communication.
Ok. Concrètement, quand on parle de communication bienveillante, en quoi ça consiste ? Comment on la met en œuvre chez nous ?
Alors, on peut donner des outils, il y a des choses qui sont facilement applicables, je dirais. La base de l'éducation bienveillante, c'est, comme l'a dit Julie, c'est le respect des émotions de l'enfant, le respect des émotions des parents aussi, parce que c'est une interaction et c'est une relation qui va se créer à deux, un respect mutuel qui va s'installer. Donc ça, dans la manière de verbaliser les choses, c'est vrai qu'on va bannir le plus possible, parce qu'on y viendra après, on est des êtres humains et entre la théorie et la pratique, parfois, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on voudrait. Mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on va tendre, avec respect mutuel et prise en compte des émotions. Donc, par exemple, en verbalisant un maximum les émotions de l'enfant pour que lui-même puisse après les identifier plus facilement. Et en effet, c'est un cercle vertueux. Donc, ça va lui permettre, si on identifie ses propres émotions, lui-même va mieux les identifier. Et après, plus tard, quand il va devenir adulte, on dit souvent les enfants, c'est les adultes de demain, et ben, lui-même, il pourra recréer cette relation et être dans une communication bienveillante, non violente, et donc c'est ce vers quoi on essaie de tendre dans des exemples. Après, ce qu'on va développer aussi chez l'enfant, c'est essayer de l'impliquer, alors dès que ça va être possible, en fonction de l'âge de l'enfant, mais essayer de l'impliquer dans ce qu'on va faire, de favoriser son autonomie et de lui faire prendre conscience dès petit de ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis en fonction des règles de la famille, en fonction de si ça peut le mettre en danger ou pas. Et donc on va vraiment verbaliser en fait ses émotions, mais aussi les explications qu'il y a autour pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire, on explique souvent que dans la communication bienveillante, on doit parler plutôt positivement, éviter tout ce qui est négatif, mais il y a une phase d'opposition où l'enfant il a besoin de comprendre aussi les interdits. Et donc là, au-delà de la sémantique, on va dire non, stop ou c'est interdit, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est d'aller expliquer pourquoi, tout en fixant les règles et en verbalisant les émotions de l'enfant.
Est-ce que le fait de faire ça, ça va éviter les colères, éviter les pleurs, éviter les cris, éviter la phase du terrible tout ? Ou est-ce que, non, parce que c'est comme ça, il faut qu'ils y passent, et la seule chose que ça va faire quelque part, c'est de les amener à ce que plus tard, ils arrivent à mieux s'exprimer, mais dans tous les cas, ils vont passer par là.
Non, ça n'évitera pas les pleurs et les crises des enfants, parce que les pleurs, les chagrins, les frustrations, j'ai envie de dire que c'est physiologique, Un enfant doit les éprouver parce que nous, en tant qu'adultes aussi, on teste nos limites. On a des limitations de vitesse, mais parfois, on se dit « allez, ça va passer » jusqu'à ce qu'un jour… il y ait une amende et qu'on essaie de dire bah non, on essaie de négocier aussi hein, quand ça nous arrive en tant qu'adultes. Les enfants c'est pareil, sauf que nous adultes on a conscientisé, on fait marcher notre cerveau de raisonnement. Les enfants ils n'ont pas cette capacité là, donc ils vont terminer une phase de négociation soit dans les cris soit dans les pleurs, mais ça fait partie de leur développement, et donc quand en fait on fait de la communication bienveillante, il faut aussi connaître le développement normal de l'enfant, son développement moteur psycho-affectif, pour mieux comprendre aussi comment on peut discuter avec lui, comment on peut échanger, trouver des mots, des phrases simples au départ, les complexifier plus il grandit. En tout cas, voilà, c'est important quand même que les parents soient au courant de ce que l'enfant est en capacité de comprendre et de faire à tel âge et ce qu'il est en capacité de faire à plus grand pour que on n'attende pas de trop de l'enfant en fait, parce que plus on va attendre trop de l'enfant, plus on risque en fait d'être frustré nous-mêmes du résultat qu'il va fournir, si je me fais comprendre. Mmh. Imaginons qu'il soit plus petit que ce qu'il pourrait comprendre, on risque de s'énerver. Or, si on le prend tel qu'il est, avec tout l'amour qu'on a pour lui, et en se disant il est en capacité de comprendre ça, on ne tend pas les limites au-delà de ses propres capacités à l'enfant.
Si je peux me permettre de rajouter, ce qui est important vraiment, que je pense qu'il y aura des parents, des professionnels qui écouteront ce podcast, c'est que l'enfant, quand il est pris dans ses émotions, il est comme dans un tourbillon et c'est extrêmement difficile pour lui d'en sortir. Pour un adulte qui est en colère ou qui est très triste, c'est déjà des émotions qui sont très très fortes, mais pour un enfant, c'est vraiment décuplé. Et ce qui est difficile aussi dans l'éducation bienveillante, et je pense que pas mal de parents rencontrent ça, c'est qu'en fait, les parents d'aujourd'hui n'ont pas reçu une éducation bienveillante. Donc, il faut faire avec un bagage éducatif qui est différent. Et donc, c'est pour ça que les parents d'aujourd'hui ont besoin de beaucoup d'outils pour pouvoir mettre en place cette communication-là et cette éducation-là, parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas reçu. Ils vont comprendre le développement psychomoteur de l'enfant, mieux ils vont être armés pour ça, et plus facile ça va être de faire face aux colères de leur enfant, potentiellement, peut-être en sachant quoi faire, justement, face à ça.
Je trouve que parfois, quand on n'a pas eu cette éducation-là, ou quand on essaye d'appliquer ça au quotidien, il y a des moments où on est un peu désespéré, où on se dit, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir tout bien fait, j'ai fait attention, je lui ai parlé gentiment, je lui ai exprimé ce que je ressentais, et en fait, ça finit quand même par une colère monumentale, et j'ai juste envie de dire, je vais revenir à la bonne punition, et puis on n'en parle plus, ça marchait bien, quoi. On a un peu ce réflexe-là quand on a vécu ça, de se dire, non, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Mais en fait, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que c'est normal d'en passer par là, c'est ça ?
Exactement, c'est tout à fait normal d'en passer par là. Et en fait, être parent, c'est une vraie course d'endurance. C'est pour ça que c'est hyper important aussi d'écouter les émotions des parents, parce que la communication bienveillante, elle prône aussi l'écoute des émotions des parents. Et ça, c'est important comme message à faire passer. Et on a aussi ses propres limites. Et donc, quand on a répété plusieurs fois qu'on a fait preuve de communication bienveillante, il y a aussi un moment donné où on arrive peut-être au bout de ses propres limites. Et là, en effet... ça nous devient plus difficile de maîtriser ses propres émotions. Et on va en discuter après, mais il faut aussi savoir se pardonner de ne pas être parfait, de ne pas être un parent parfait. Et ça, c'est plus que sain pour l'enfant. C'est normal qu'il fasse des colères et c'est normal qu'il ait un parent qui, parfois, ne réagisse pas toujours parfaitement ou de la manière la plus optimale qui soit.
C'est vrai qu'il y a des fois, on a tout fait comme il faut et puis on voit que ça porte pas les fruits qu'on voudrait. Mais il y a des fois aussi où on a, à force de répéter les mêmes choses, on voit l'enfant faire de nouveau ce qu'on lui a interdit depuis des jours et des jours. Et ça va appuyer encore une fois sur un bouton alors qu'il ne s'est rien passé de mauvais dans la journée. Il y a juste eu ça va réactiver en fait le fait qu'on répète tout le temps, que c'est toujours la même chose. Qu'il n'entend rien, en fait, qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Ça arrive, j'ai envie de dire, c'est normal, puisque l'enfant, il est dans le présent. Ce que vous lui avez dit hier, c'était son présent à lui, puis aujourd'hui, c'est un autre présent. Mais nous, en tant qu'adultes, on a du mal, et c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on revient toujours en arrière, on fait deux pas d'avant et trois pas de recul, quoi. Mais comme dit Elodie, c'est une course d'endurance, c'est une course de patience, mais ça porte ses fruits, ça porte ses fruits. Ça, par contre, c'est clair net, j'y crois et je sais que ça a du bon pour la famille et du bon pour le parent comme pour l'enfant. On y gagne. C'est du win-win, comme dirait.
C'est de l'investissement à long terme.
Oui, c'est ça.
Et alors, du coup, quand on en est à cette phase-là où on se dit non, mais là, j'en peux plus de répéter 15 000 fois la même chose, comment on lui dit ça de manière bienveillante à notre enfant sans lui dire tu me saoules, j'en ai marre de répéter 50 fois les mêmes choses?
Je pense qu'il faut commencer par verbaliser son émotion, dire qu'on est fatigué, qu'on est énervé. Comme on verbalise l'émotion de l'enfant, il faut aussi que la nôtre, on la verbalise. Et puis, voilà. Alors, il faut essayer de communiquer de manière bienveillante, mais je pense qu'il faut aussi savoir s'excuser si quelquefois on n'y arrive pas. Parfois, bah voilà, on est dans cette situation où nous-mêmes on a du mal à maîtriser nos émotions et qu'on communique de manière, on va pas dire malveillante, mais pas de la meilleure des manières. Et donc là, je pense qu'on a assez de recul en tant qu'adulte pour se rendre compte si on a bien ou mal fait. Je pense que c'est important d'aller vers l'enfant et de lui dire, bah voilà, j'ai pas eu le ton adapté, je suis très fatiguée, et là, ça faisait plusieurs fois que je te répétais l'interdit ou que je t'expliquais que ce n'était pas permis. Et donc voilà, je suis désolée, mais là, tu vois, maman ou papa a aussi ses propres limites. Et là, je n'ai pas réussi à bien communiquer avec toi. C'était pas possible pour moi.
Voilà, si on est bienveillant la plupart du temps et qu'on craque en fait à un moment donné parce que voilà, on est saturé, on n'en peut plus, nos limites sont atteintes, l'enfant, lui, il est bon en lui-même, donc il retiendra tout ce qui a été bon. Et c'est pas parce qu'on a crier un peu plus ou dépasser un peu nos limites à nous que ça va être négatif. Au contraire, faut, comme dit Elodie, repartir en disant voilà, je suis désolée, ça peut m'arriver. J'ai aussi mes limites, j'ai aussi mes failles. Je m'excuse parce que je t'ai manqué de respect, parce que voilà, mais l'enfant, il va en sortir grandi aussi. Il ne faut pas se culpabiliser quand on n'y arrive pas à un moment donné.
Ok, c'est normal, ça, on a le droit de craquer à un moment donné et ça ne va pas foutre en l'air tout ce qu'on a tenté de faire jusqu'à maintenant.
Non, non, l'enfant, il retient vraiment les 80% de bénéfiques en fait. Voyez, donc les 20% où on peut être totalement dépassé par les événements, avoir craqué, ça ne jouera pas en la défaveur d'une communication qu'on tente de mettre vraiment bienveillante au sein de la famille.
Je pense qu'il n'y a aucun parent qui peut se targuer de ne jamais avoir craqué, en fait. C'est le quotidien de tous les parents et c'est sain. Voilà, on parle de la mère suffisamment bonne, hein, c'est Winnicott qui parle de ça. Good enough. Et en fait, c'est voilà, il faut être suffisamment bon. Et c'est exactement ce qu'amène Julie avec ses 80-20. Alors, on peut être sur du 90-10 ou du 70-30 en fonction des journées. Mais en tout cas, je pense que c'est important de garder à l'esprit que la perfection n'est pas saine pour l'enfant. Puisque si l'enfant voit un parent qui est lisse, et bah, du coup, il n'est pas en mesure de repérer les émotions et ça ne l'arme pas pour la vie future. Et de la même manière, il a besoin de congruence. C'est-à-dire que quand il sent un parent qui est peut-être fatigué ou énervé ou triste, et bah, il a besoin de sentir le corporel et sa posture qui va en adéquation avec ce qu'il ressent. Donc, il ne faut pas trop lisser les choses non plus parfois quand ce n'est pas possible et quand on sent que les émotions ont besoin aussi d'être extériorisées.
Ok. D'abord, est-ce qu'on l'applique dès la naissance ou est-ce qu'il y a un âge à partir duquel c'est plus intéressant de commencer à exprimer ce genre d'émotion? Et ensuite, est-ce que l'enfant, lui, il est en capacité de comprendre tout ça ou au début, il capte juste des mots et puis il en fera quelque chose plus tard?
Ça peut se commencer très tôt, hein, à la naissance de l'enfant, on peut être fatigué, le manque de sommeil, on peut parfois quand il y a des pleurs un peu longs, on peut nous-mêmes craquer, lui expliquer, voilà, je te pose dans ton berceau parce que là je sens que je suis trop fatiguée pour prendre tes pleurs, mais je reviens. Donc on doit, je pense, dès la naissance, il va comprendre les mots plus tard, mais en fait c'est dans les émotions, la gestuelle, dans le handling, en fait on parle de handling et de holding, le fait de porter l'enfant d'une certaine manière, il comprend en fait, il le ressent, voilà, c'est des sensations qu'il a, Et ces sensations, il va les intégrer et il va les transformer quand il va grandir. Et après, les mots vont prendre la place. Et donc, si on peut le mettre de manière le plus rapidement possible, ça ne peut être que bénéfique parce que ça lui montrera que voilà, il est dans un foyer qui va l'accueillir, qui l'accueille hein, avec bienveillance, avec amour, avec respect. Et que il va s'imprégner de tout ça en fait. Voilà, c'est comme c'est des sensations, il s'imprègne de ces sensations.
À l'inverse, est-ce que c'est important aussi de dire ben là je suis contente, on a passé 10 minutes à se faire des sourires, c'était sympa, j'ai bien aimé faire ça avec toi.
Ah oui, oui, Charline.
Ouais, la verbalisation c'est hyper important. Alors la verbalisation des émotions du parent et la verbalisation de ce qu'on pense être les émotions du bébé, parce qu'au début on met du temps avant de en tant que parent, avant de réussir à cerner le décodage, entre guillemets, l'accordage affectif, ça prend un petit peu de temps, mais du coup, de dire bah, « j'ai l'impression que là, tu as mal » ou « j'ai l'impression que là, peut-être, tu es heureux, tu es content ». Donc, dans les deux sens, on peut le faire. Moi, je dirais qu'on peut même commencer in utero.
Okay.
Et bah, de parler à son bébé, que le papa et la maman parlent au bébé, parce qu'on sait que le bébé, il entend... dès la fin du troisième mois de grossesse, il commence à entendre des sons, il commence à entendre les voix, reconnaître la voix de sa maman, un peu moins son papa, mais il reconnaît quand même la voix de son papa. Donc en fait, dès le début, comme disait Julie, on instaure un climat bienveillant et on sait que la vie intra-utéro, c'est une continuité de la vie extra-utérine. Donc en fait, c'est pareil, ça fait une sorte de fil conducteur.
Ok. Alors on imagine, moi je suis une maman qui tente d'être bienveillante dans son éducation, mais qui n'a pas spécialement les clés de ce qu'est la communication bienveillante et de par quoi je commence, à quel moment je peux initier ça, qu'est-ce qu'il faut que je transforme dans mon discours pour en arriver à bien identifier ça.
Bon, déjà, il faut que ça parte, là j'entends Charline, hein, déjà tu te poses les questions, est-ce que je réagis bien, est-ce que je communique bien. Donc déjà, si tu as le déclic qui te dit bon, bah, j'ai envie d'améliorer ma façon de communiquer avec mes enfants, c'est un bon point de départ déjà. Et bien entendu, c'est aussi d'identifier chez soi ses besoins. Parce qu'en fait, dans la communication bienveillante, c'est la satisfaction des besoins de chacun. Satisfaire bien sûr le besoin de l'enfant, mais satisfaire aussi ses propres besoins à soi. Et donc, si tu arrives à déjà bien identifier tes besoins, si je te prends un exemple concret, imaginons t'as une enfant, une fille qui vient et elle joue avec tes maquillages, tu vois, ton maquillage et tout ça. Et toi, en fait, t'y tiens ton maquillage parce que voilà, ton rouge à lèvres est là, t'aimes pas non plus que le bâton il soit cassé, bon. Et que tu la vois et que tu lui as déjà dit en fait de pas toucher à ça. Donc tu peux dire voilà, moi quand je te vois toucher à mon maquillage, je trouve qu'en fait j'ai peur, ça me met en tension parce que j'aime beaucoup mon maquillage, j'y tiens et j'aimerais qu'en fait mon maquillage on y prenne soin. Donc, je préfère te le retirer des mains parce que j'ai peur que tu me l'abîmes. Donc là, il y a le besoin vraiment de sécurité et de vouloir que son matériel il soit respecté aussi. Donc, tu as déjà fait passer tes besoins, mais tu as expliqué avec bienveillance. Tu n'as pas dit « Ah, je t'ai déjà dit, expliqué que j'ai pas envie que tu touches à mon rouge à lèvres, j'ai pas envie que… » C'est différent la manière de l'aborder. Le résultat sera le même. Je te dis pas que demain, elle va pas recommencer. Mais je te dis juste que sur le temps T, en tout cas, tu as expliqué ton besoin à toi.
Et elle l'a pas reçu de la même manière que si je lui avais dit, je t'ai déjà dit de pas y toucher et que je lui prends des mains sans la prévenir.
Oui, et puis elle tient à une poupée, elle a une poupée dont elle tient ou à quelque chose, et donc elle sait ce que tu ressens quand tu lui dis que tu n'as pas envie qu'on touche à quelque chose auquel tu tiens. Tu vois, parce que l'enfant, il est empathique, donc il se met à ta place aussi. Et c'est pour ça qu'il va te comprendre aussi dans un sens.
Est-ce qu'elle va savoir identifier d'elle-même que si je lui dis de... Par exemple, si on garde cet exemple-là, est-ce que si je lui dis ça, elle va elle-même faire le lien avec sa poupée, par exemple? Ou est-ce que c'est à moi de lui dire, ben tu vois, ce maquillage, c'est un peu comme toi avec ta poupée, t'y tiens beaucoup, t'as pas envie qu'on te l'abîme, ben moi, mon maquillage, c'est la même chose, j'y tiens beaucoup, j'ai pas envie qu'on me l'abîme, donc je préfère que tu joues pas avec. Est-ce qu'il faut que nous, on fasse ce lien-là, ou est-ce que l'enfant, il est lui-même en capacité de transposer les choses?
Ça va dépendre de l'âge de ton enfant. C'est vrai que tu peux lui donner un exemple plus concret si tu vois qu'il est plus petit. Tu vois, mais vers 6-7 ans, l'enfant est en capacité de le comparer. Par contre, avant, tu peux effectivement prendre l'exemple de la poupée parce que elle va pouvoir vraiment se mettre à ta place. Et comme on essaie de jouer sur l'empathie et sur le fait de comprendre l'autre, ça peut être un intermédiaire de prendre l'exemple et de l'illustrer.
Ok.
Je pense comme méthodologie aussi, peut-être reprendre trois grands axes. Verbalisation des émotions de l'enfant, verbalisation de ses propres émotions. Donc ça va dépendre de la situation, mais ça peut être et celle de l'enfant. Je vois que toi, tu as très envie de toucher à ça. Mais par contre, moi, comme a dit Julie tout à l'heure, c'est quelque chose auquel je tiens et je peux avoir peur que tu aies mis mon maquillage. Un deuxième axe avec des explications, puisque si on ne donne pas ces explications à l'enfant, il n'est pas en mesure de comprendre. Le non tout seul ou le stop tout seul ou le c'est interdit tout seul n'a aucune... Il ne peut pas faire de lien. Mmh. Et la troisième chose, c'est la règle ou la limite ou le cadre, peu importe la sémantique qu'on va employer, mais en tout cas, voilà ce qu'on veut obtenir de l'enfant. Et c'est vrai que ces trois grands axes-là, alors pas tout le temps, mais ça peut être aussi une méthodologie pour les parents qui veulent commencer, évidemment en s'adaptant à l'âge de l'enfant. Et après, ils vont s'approprier aussi les outils et fixer les règles qui leur ressemblent. Parce que d'un parent à un autre, il y a des choses qui sont très importantes, des gens qui font très attention au matériel, et puis d'autres pas du tout. Donc ça va pas être les mêmes règles en fonction de chaque foyer. Mais cette méthodologie-là, par contre, elle peut être employée, elle peut être déployée même, je dirais, dans tous les foyers et pour tous les enfants.
J'ai deux questions qui me viennent en entendant ça. La première, c'est à partir de quel âge les enfants ils sont en capacité de comprendre ce qu'on leur dit ?
Le bébé, à partir du moment où il naît, déjà, il a 4 de ses 5 sens sensoriels qui sont totalement opérationnels. Donc le seul qui n'est pas totalement développé, c'est la vue.
D'accord.
Autant dire qu'au niveau de la communication, on sait que la communication, c'est 80% de non-verbal. Donc, si on fait le lien assez facile, ça veut dire que normalement, le bébé, il comprend 80% du message communicatif, puisqu'il ne comprend pas le verbal. Donc, en fait, le bébé, comme disait Julie tout à l'heure, c'est les émotions qui vont faire sens chez lui dans un premier temps et qui, petit à petit, vont faire du lien avec ses connexions neuronales, le langage qui va se développer. Donc, on peut dire que voilà, il y a 80% du message qui est déjà reçu dès la naissance. Donc, moi, je pense que vraiment, dès tout petit, les bébés comprennent la profondeur du message, le sens du message, sans en comprendre vraiment les mots. Après, il y a même des spécialistes qui disent que les bébés, dès tout petits, commencent à comprendre certains mots ou certaines intonations. Donc non, moi, je pense vraiment que évidemment, c'est progressif et que le langage va venir aider à consolider tout ça. Mais que voilà, les bébés, quand ils apprennent à parler, on est parfois surpris des mots qu'ils disent, les premiers mots qu'ils peuvent dire au-delà de papa-maman, mais on est surpris des mots qu'ils peuvent répéter. Donc, je pense que la communication bienveillante, elle est bénéfique dès la naissance et même avant.
Et la deuxième question que j'avais, c'était, tu parlais de limites. Comment on fixe ces limites ? Comment on leur explique de manière bienveillante ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ?
Alors, de la même manière, on n'a pas tous les mêmes, on va pas tous fixer les mêmes limites. D'une famille à une autre, on va avoir des limites différentes. Après, si on parle de ce qui va être des limites bienveillantes, ça va être le mode de communication et surtout comment est-ce qu'on va réussir, enfin comment on va chercher à obtenir, à faire adhérer l'enfant, à le faire participer. Donc on parle plutôt maintenant de coopération, donc d'amener l'enfant à lui faire comprendre le message plutôt qu'à le punir, puisque ça n'a pas vraiment d'intérêt de le punir, il ne va pas comprendre les choses. On peut aussi l'amener à réparer, c'est-à-dire qu'on va fixer des limites bienveillantes et puis parfois l'enfant il ne va pas les respecter. Et donc là on peut lui dire... On a verbalisé son besoin, on lui a expliqué et malgré tout il recommence. Voilà, ça c'est la théorie, mais en pratique souvent l'enfant il va tester parce que c'est comme ça qu'il découvre son environnement, il a besoin. Alors bien rappeler que c'est nécessaire, c'est normal et qu'un enfant sain, eh ben, il va toucher à tout, un enfant sain il va monter sur des chaises ou sur des tables pour expérimenter les choses, ça c'est normal. Mais par exemple, je sais pas, on prend l'exemple d'un enfant à qui on a dit plusieurs fois de pas toucher à quelque chose, puis il finit par renverser quelque chose, ben on peut lui proposer de réparer en fait ce qu'il vient de faire. Et donc la limite, elle est fixée, on n'est pas laxiste, on ne permet pas tout, mais on permet à l'enfant de réparer les choses. Ou si par exemple, on peut prendre un autre exemple, on va refuser des bonbons à un enfant en lui disant ben non, je sais que tu as envie de manger des bonbons, mais pour le moment, voilà, tu en as beaucoup mangé, j'estime qu'aujourd'hui c'est suffisant en tout cas, on peut développer son imaginaire. Et ça peut aussi l'aider à rester dans la limite, on reste dans la règle ou le cadre qu'on a fixé, mais on va développer son imaginaire et essayer de décentrer son attention sur quelque chose d'autre. Et donc on fixe les limites de manière bienveillante, mais sans en avoir l'air, en fait, on ne cède pas, on maintient un certain cap nécessaire au bon développement psychoaffectif et psychomoteur des enfants, mais on est plus souple dans la manière dont on les fixe, les limites. Et donc, on peut appeler ça des limites bienveillantes.
Ok. Ça peut être, par exemple, s'il veut un bonbon, lui dire, ben non, aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que telle ou telle raison, selon les familles. Mais, par exemple, si tu avais pu, quel bonbon tu aurais aimé avoir ? La prochaine fois, est-ce que tu préférais tel ou tel bonbon ? Le faire imaginer ce qu'il aurait pu avoir, ça peut l'aider à faire passer sa frustration de ne pas l'avoir ?
Tout à fait. Moi, pour l'expérimenter moi-même avec ma petite fille, c'est impressionnant à quel point ça marche.
Parce que ça paraît un peu paradoxal, le fait de se dire on va lui en parler, ça va lui donner encore plus envie.
Ça paraît totalement paradoxal, sauf que ça le décentre de son émotion du présent, et du coup ça le fait... Alors il peut y avoir des fois où l'enfant, surtout en grandissant, il va peut-être revenir sur l'objet de départ. Mais ça décentre beaucoup l'émotion et ça aide dans de nombreux cas à faire baisser la colère ou la frustration, et à le faire un peu accepter les choses. Bon, peut-être qu'une demi-heure après, il va revenir en redemander et que son envie va revenir, parce qu'il y a quand même un besoin derrière les... Il ne faut pas oublier, et ça c'est très important, derrière la colère, derrière la tristesse, derrière les grosses, grosses émotions, il y a des besoins inassouvis. Et c'est quelque chose d'important à faire passer aux parents aussi. Souvent, quand les enfants ils font des grosses colères, ou il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de l'incompréhension de la part des parents d'un besoin qui n'est pas assouvi, il peut y avoir une journée très fatigante pour l'enfant et qui va avoir besoin de décharger des émotions. Donc souvent, derrière une grosse émotion, il y a des besoins qui sont non assouvis.
Si tu veux donner un exemple, quand je reprends les bonbons, plutôt que de dire ouais, quel bonbon tu veux, c'est ah là là, je sais que toi t'aimerais peut-être un bonbon rose, et puis il aurait le goût de la cerise, et puis il serait bien luisant. Et en fait, vraiment être dans la description fine. Et les enfants, comme ils sont dans le détail, plus tu donneras en fait voilà, une appétence et que tu joueras avec eux, c'est comme un jeu aussi. C'est, il faut laisser l'imagination de l'enfant, mais laisser aussi son imagination à soi, et par le jeu et par le détournement, c'est là où ils adhèrent le plus.
D'accord. Et j'avais une question par rapport aux règles. Est-ce que c'est intéressant d'allier ce qu'on dit à de la communication visuelle, c'est-à-dire par exemple de créer un tableau des règles de la famille et d'y revenir avec l'enfant en lui disant, ben, par exemple là, tu vois, dans la maison, il est par exemple, on doit prendre soin de ses jouets. Là, tu as pris ton jouet, tu l'as jeté par terre, il s'est cassé, c'est pas conforme aux règles de la maison. Est-ce que ça, c'est intéressant ou est-ce que c'est trop compliqué pour l'enfant ?
Ça va dépendre, en fait, de l'adhésion de l'enfant. Il y a des enfants qui peuvent adhérer très tôt, s'ils ont appris à faire ça avec les parents, mais je trouve que ça peut être un bon support. Ça dépendra de comment il est mis. Là, tu me donnes l'idée, hein, mais faut que ça soit visuel, faut que ça soit coloré, faut peut-être même que ça soit même l'enfant qui puisse lui-même, et là, je reprends l'idée d'Élodie, de coopérer, c'est-à-dire un système où il vient et il met en fait, il admet aussi que bah là il a pas bien traité son jeu, donc est-ce qu'il peut mettre lui-même sur le tableau que voilà, il y a une sorte de participation, de coopération. Je pense que ça peut être très intéressant comme support. Tu posais la question de comment les parents peuvent commencer. Quand on disait voilà, il faut faire une liste de tes besoins aussi, c'est un peu cette idée-là. Peut-être pas le mettre sous forme de tableau parce que pas tous les parents veulent passer par un truc interactif et ludique, mais au moins poser voilà, moi, ce que moi je peux tolérer, ce que je peux pas tolérer. Et en fait, plus tu poseras et que tu seras précise, plus les enfants ils sauront aussi. Parce qu'en fait, le problème avec les enfants et les parents, c'est que parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Les règles, elles peuvent être transgressées parfois parce qu'on est moins fatigué, tu vois, donc ça passe. Et en fait, le fait de pas être tout le temps dans le même discours, ça peut perturber les enfants et c'est là où ils s'engouffrent dans la brèche. Ce qui est normal, hein. Là tu as posé des règles, tu as bien mis par écrit ce que toi tu voulais, comment en fait ça se passe quand ça s'est pas respecté, et là tout est clair pour l'enfant, et plus c'est clair, plus c'est limpide, plus ils adhèrent.
Ok, alors moi j'ai l'impression en tant que maman qu'il y a des moments où j'ai plus de difficultés à mettre en place la communication bienveillante. Et j'identifie, mais c'est mon cas personnel et j'imagine que chacun pourra identifier ce qui lui est difficile, mais chez moi par exemple ce qui est difficile c'est quand mes enfants pleurent. C'est-à-dire que quand les enfants pleurent, j'ai une phase où j'ai de l'empathie envers eux, où je vais aller les voir, je vais en discuter avec eux, essayer de leur faire un câlin. Par contre, quand ça ne les calme pas, ça m'irrite très rapidement, j'avoue. Comment on fait pour gérer ça en tant qu'adulte ?
Ah, moi, si je peux me permettre, déjà, je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. C'est le cas de beaucoup de parents chez des bébés, mais aussi chez des enfants plus grands, pour peut-être plusieurs raisons. Il y a déjà la première qui me vient à l'esprit, c'est que enfants, nous, bébés, nous, les pleurs n'étaient pas considérés de la même manière et donc on laissait plus pleurer les bébés. Donc, en tant que bébé, on a peut-être moins été écouté, donc c'est logiquement pas si simple que ça d'aller écouter les pleurs de quelqu'un d'autre, en tout cas de les accueillir, comme dirait Julie. Donc il y a cette première chose. Après, il y a le fait que c'est un moyen de communication qu'on comprend mal. On le connaît pas si bien que ça. En tout cas, on apprend à le connaître. Mais du coup, ça nous, en tant qu'adulte, ça nous parle. On comprend que c'est une détresse, on comprend que c'est peut-être une colère. Mais au bout d'un moment, comme tu dis, Charline, quand tu as essayé d'écouter, d'entourer, de câliner, eh bien, parfois, on arrive au bout des solutions qu'on peut avoir.
Alors, par rapport aux pleurs, quand, par exemple, si je dois faire un parallèle, hein, quand tu pleures parce que voilà, tu reviens d'une journée, tu es très triste, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais ou en tout cas, tu as un gros chagrin, tu as appris quelque chose qui t'a fait vraiment du mal et tu vas voir une amie et l'amie, elle va t'accueillir, tu pourras pleurer dans ses bras, mais autant de temps que tu veux et ça fait du bien, ça te fait un bien fou, j'imagine. Ou dans les bras de ton chéri. Et l'enfant, en fait, il aimerait éprouver ça aussi. En fait, le sentiment que toi, tu as quand tu pleures dans les bras de ton ami, bah, il faut imaginer que c'est un peu ce que ton enfant il pourrait ressentir si on arrivait à accueillir ses pleurs pareils, sans se dire que ça va durer 10 minutes, avoir l'idée que ça peut durer des heures, mais que tu es prêt à les accueillir. Parce que quand tu les accueilles et que tu laisses l'enfant s'épancher, ça peut être une grosse colère parce que effectivement, il a pas obtenu ce qu'il voulait. Tu vas avoir une idée qu'il pleure parce qu'il est en colère et qu'il est frustré. Sauf qu'il a le droit d'être frustré. Il a le droit d'être en colère. D'accord, il n'aura pas le droit d'avoir ce que tu lui as interdit d'avoir, mais en tout cas, il a le droit de pleurer, il a le droit d'être frustré. Et pour ça, lui laisser la place de pleurer dans tes bras s'il veut, que tu le touches, le caresses, et ne pas s'attendre à ce que ça dure 5 minutes parce que plus on met des attentes, Et si ça dépasse les 5 minutes, ben on aura l'impression de perdre son temps et j'ai ça encore à faire derrière, j'ai ma machine à étendre. Et en fait, plus on se dit que ça va durer voilà, très peu de temps, ben voilà, on fixe des attentes peut-être pas accessibles, il faut lui laisser à lui son temps à lui. Donc du coup, quand tu vas accueillir ses pleurs, ben tu te dis, ben, il se calmera quand il se calmera, mais je suis là pour lui, pour les accueillir. Et si t'es pas en capacité de le faire, autant pas le faire et te dire bon bah je reporte ça parce que là je serai pas en capacité de le faire. Il faut le reconnaître aussi ses limites. Mais les pleurs c'est vraiment une soupape pour l'enfant et on dit qu'en fait il y a du cortisol qui est libéré par les larmes. Le cortisol étant une mauvaise hormone, hein, une hormone qui te stresse, et ben bah, si elle est évacuée par les larmes, et ben bah, au moins elle s'accumule pas dans le corps. Donc c'est vraiment très très bénéfique de pleurer.
Et donc, en fait, c'est pas grave si l'enfant ne se calme pas. Ça veut pas dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ça veut pas dire qu'on ne l'accompagne pas comme il faut. C'est juste qu'il a besoin de pleurer et c'est pas grave si ça dure 10 minutes, un quart d'heure. L'important, c'est d'être là pour accueillir, c'est ça ?
Ah oui, c'est un cadeau que tu y ferais. Vraiment.
Ok, pensera à vous la prochaine fois.
Ouais, après, comme dit Julie, si tu rentres d'une journée où t'es épuisée et où tu sens que c'est possible pour toi, vaut mieux aller remplir ton réservoir à toi, comme une cruche où tu remplirais de l'eau pour être bien, bien hydratée, avant d'aller accueillir l'émotion. Parce que si toi-même, on n'a pas accueilli tes émotions pendant la journée, tu ne seras pas en mesure d'accueillir pendant 10 minutes ou un quart d'heure. Tu vas essayer de le faire, puis au bout de 2 minutes, tu vas t'irriter et t'agacer, puisque toi-même, on n'a pas été suffisamment à l'écoute de tes émotions dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre peut-être parfois un temps, comme dit Julie, ou passer le relais à son conjoint ou à la personne qui est présente qui a peut-être plus de disponibilité à ce moment-là. Et lâcher prise et se dire, bah voilà, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais pouvoir répondre à ce besoin-là. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais parent. Ça veut dire que j'ai identifié que j'avais besoin de prendre soin de moi avant pour pouvoir prendre soin des autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, en s'oubliant, on ne rend pas forcément service à l'enfant parce que de une, on va mal répondre à ses besoins, vu qu'on n'est pas performant. Mmh. Et deux, en plus, sur le long terme, si on n'écoute jamais ses besoins, on va s'épuiser. Donc, quand il y a cette culpabilité qui vient, bon, on doit accueillir, puisque c'est une émotion, on l'accueille. Et puis, il faut essayer de se dire, j'ai le droit d'écouter aussi mes émotions. J'ai le droit d'avoir du temps pour moi. Et c'est bon pour mon enfant que là, peut-être quelqu'un d'autre prenne le relais ou que je lui verbalise. Là, tout de suite, je ne peux pas. Je viens dès que c'est possible. Laisse-moi 5 minutes, j'arrive. Mmh. Alors, l'enfant est en mesure d'entendre ça. Après, plus les enfants sont petits, plus ils ont une dépendance, évidemment, à l'adulte. Mais voilà, il faut faire appel à un autre adulte si on sent qu'on n'est pas en capacité de le faire.
Et dernière question, c'est par rapport à... On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Quand parfois on n'arrive pas à gérer et qu'on n'arrive pas non plus à dire « ben là, je peux pas » et qu'on s'agace. Parfois, il y a certains parents qui vont jusqu'à la violence physique. Parfois non, mais malgré tout, le fait de crier, ça peut aussi être vécu par les enfants comme de la violence éducative. Comment on fait quand on a dépassé la limite qu'on s'était soi-même fixée et qu'on estime avoir été violent envers son enfant pour revenir en arrière ou alors pour aller de l'avant avec lui? Comment on se comporte dans ces cas-là?
On s'excuse. On s'excuse. Nos parents ne s'excusaient pas. Et c'est une grande force de savoir s'excuser, remettre en question. Ça permet à l'enfant de voir que son parent, il est imparfait. Ça permet à l'enfant de voir que ben, c'est permis et qu'on a le droit de se tromper et que l'important, c'est de réparer ou d'essayer de faire mieux la prochaine fois. On s'excuse. Moi, voilà ce que je trouve primordial.
Pratico-pratique, hein, Charline. Je vais te donner un exemple. Tu es là, t'as ton enfant, garçon ou fille, on prend le petit-déj, et puis il y en a partout sur la table, et puis tous les matins c'est la même chose, il en met partout sur la table, et même sur ses vêtements, et donc toi tu penses à laver les vêtements, à nettoyer la table, t'avais pas prévu ça, parce que, et donc en fait tu t'énerves, tu cries, il y en a marre, j'en ai assez, c'est tout le temps la même chose, et puis tu vois en fait ton enfant qui se liquéfie sur place, parce que la réaction est peut-être un peu vive par rapport à la situation du matin, et là il se met à pleurer, toi tu perds patience parce que bah, t'as pas envie de gérer ça non plus le matin. C'est pas du vécu, hein? Non, pas du tout.
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Et du coup il se met à pleurer, et là ta soupape elle est déjà vide alors qu'on est que le matin, tu viens de te lever, mais tu te dis la journée elle va être longue, ouais. Et là tu hausses le ton, bon, et puis l'enfant se retrouve dans sa chambre, et là, beaucoup de remords, beaucoup de culpabilité, parce que tu as mal réagi. C'est, ça n'a pas été violent dans le sens où tu n'as pas utilisé de terme vraiment, mais tu as quand même crié, haussé le ton. Mm-hmm. Il vient de se lever, ça commence une journée, c'est un peu pourri, mais tu n'es pas en capacité d'aller dans la chambre pour le réconforter parce que ta soupape est encore vide. Et ben, il faut le laisser pleurer, arriver quand toi tu es calmé, lui dire que voilà, comme dit Elodie, tu t'excuses de pas avoir été là pour ses pleurs, parce que c'est bien de pleurer avec quelqu'un, on se sent moins seul, mais que là t'es fatigué et que tu es désolé, que il y a des jours comme ça où quand tu vois le lait qui se renverse et que toi tu penses à nettoyer et qu'il va falloir encore prendre du temps et te mettre en retard, et ben ça te fait voir du rouge, ça te fait voir en rouge, et tu perds patience. En fait, je pense qu'il faut être honnête avec l'enfant, parce que l'enfant, il te connaît mieux que toi, tu te connais parfois, et vice-versa. Hein, parfois, on connaît mieux son enfant que lui ne se connaît aussi. Et donc, être honnête, être congruent avec soi, et se dire que bah, si on est en colère, autant montrer de la colère plutôt que de faire semblant. Okay. Ça sert à rien de se mentir à soi-même ni aux autres, clairement.
Ok, c'est hyper intéressant. J'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter, chacune de vous?
Le message, moi, que j'aimerais bien que les parents retiennent, c'est l'intérêt de la communication bienveillante, voilà, sur le développement de l'enfant, sur l'adulte qui va devenir, et aussi le fait qu'on fait du mieux qu'on peut en tant que parent, qu'il faut se faire confiance, s'écouter.
Oui, et qu'il y a vraiment... Enfin, moi, je veux juste dire qu'en fait, la communication bienveillante, c'est vrai, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas de la communication permissive. Ce n'est pas une éducation permissive. C'est vraiment une éducation où on s'aime dans la famille. On montre son amour à son enfant et à son conjoint et à tout le monde de la famille. Et qu'on communique vraiment avec respect les uns envers les autres. Et qu'il est possible de craquer, mais que l'essentiel, c'est de se pardonner et de s'excuser.
Bah, ça me semble une belle conclusion. Merci beaucoup les filles.
Merci à toi.
Cet épisode touche à sa fin. Pour en savoir plus sur les accompagnements proposés par Elodie et Julie, vous pouvez consulter le site internet www.myjoliefamily.fr. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés, sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr.
Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.